Malgré le fait qu'on fait 1 million d'euros, à la limite, ça fait plus peur aux banquiers qu'on fasse du chiffre aussi vite, parce que on est repris forcément comme une start-up.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 67e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement près de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Je reçois aujourd'hui un invité très spécial. Antoine Libois, fondateur de l'entreprise My American Shop, un commerce en ligne qui vend des produits américains à des Européens, a été capable dans la dernière année de franchir le cap du million de chiffre d'affaires et ce, à 19 ans seulement. Antoine, qui a fondé son organisation à l'aube de ses 17 ans, a fait preuve d'une maturité déconcertante en bâtissant des partenariats avec des gros joueurs américains, en construisant une usine de distribution grandiose et également en créant une équipe autour de lui qui l'aide à grandir jour après jour. Sans plus attendre, ma discussion avec Antoine Libois. Antoine Libois, tu es cofondateur de l'organisation My American Shop, un commerce en ligne qui se positionne comme une épicerie de produits américains offerts à des Européens. Lancée en 2018, l'organisation a connu une croissance fulgurante dans la dernière année, atteignant plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Important également de le mentionner, tu as été capable d'accomplir le tout à 19 ans seulement. Antoine Libois, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Antoine, écoute, merci à toi de me recevoir dans ce podcast, c'est vraiment un plaisir.
Et Antoine, l'objectif de la discussion aujourd'hui est de comprendre comment à seulement 19 ans, tu as été capable de bâtir une organisation qui fait dans les 7 chiffres de revenus. Tu as 19 ans maintenant, mais tu me disais plutôt avant le podcast que tu as fondé l'organisation à 16 ans. Moi, je pense que ça peut être très intéressant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui d'en apprendre plus sur tes démarches entrepreneuriales et j'aimerais que tu nous dises en commençant d'où provient chez toi l'envie de lancer des entreprises à un si jeune âge?
Alors du coup, mon envie de bâtir, on va dire, une entreprise, c'est vraiment pas dû à des entrepreneurs dans ma famille parce que j'ai personne dans ma famille qui a de grosses compagnies ici en Europe ou même à travers le monde. Donc c'est vraiment moi qui me suis assez intéressé dans ce monde dès mon plus jeune âge. Je pense que dès 13 ans, je regardais déjà tout un tas de vidéos et de ressources en ligne qui parlaient d'entrepreneuriat, d'entreprise, d'investissement, d'immobilier. Tout ça m'a assez vite passionné dès mon plus jeune âge. Et donc voilà, on a eu cette idée-là en revenant des États-Unis avec mon frère. On avait fait un voyage avec mes parents. J'ai une escale à Chicago aux États-Unis. Étant fan de produits alimentaires, on voulait ramener ça un petit peu ici en Europe. Et donc, voilà comment a commencé le parcours maintenant de My American Shop. Donc, qui au départ était une toute petite entreprise qui réalisait quelques ventes en ligne grâce à Shopify. Bon, maintenant, on est toujours une petite entreprise, mais on réalise un petit peu plus de ventes, toujours via Shopify.
Donc, c'est lancé d'un voyage aux États-Unis et par la suite, c'est quoi? Tu reviens en Europe et très rapidement, tu décides qu'on va créer un logo, on va créer un nom, on va faire des ventes ou c'est quoi? Tu commences d'essayer peut-être de vendre des produits au départ, de regarder si la demande est au rendez-vous et par la suite, peut-être t'accélères les démarches pour commercialiser, pour peut-être avoir une empreinte là un petit peu plus solide.
Alors nous, on a vraiment essayé de faire ça dans les règles de l'art. Donc même d'un point de vue légal, on a vraiment commencé à faire ça comme il se doit. Donc on a d'abord réalisé tout ce qui était démarches administratives pour savoir comment est-ce qu'on pouvait se déclarer. Donc on n'a jamais fait de vente sans déclaration à la TVA ou à l'État. Donc une fois ces démarches faites au nom de mon père, qui n'était d'ailleurs pas au courant au départ, on a commencé donc à créer notre charte graphique, notre logo, assez homemade dans un premier temps. Et alors on est arrivé à la problématique des fournisseurs, parce qu'on vend des produits du coup d'importation des États-Unis. Donc ce sont quand même des biens qui sont assez rares ici en Europe. Donc là, on avait vraiment une première vraie problématique de savoir où aller sourcer et aller acheter ces produits. Donc ça, il nous a fallu quelques temps. Et après, donc, on a trouvé quelques importateurs qui étaient basés ici en Europe, qui ont décidé de nous faire confiance. Et on a donc commencé à acheter chez eux. On a monté notre site internet. Et alors, je pense que c'était 3 semaines plus tard, on commençait à vendre nos premiers produits via myamericanshop.be. Ouais.
Intéressant. Je l'ai dit plus tôt, t'as lancé ça à 16 ans. OK, donc 16 ans, pour certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ça peut paraître très jeune, mais pour les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être que c'est pas tellement jeune parce que beaucoup d'entre nous, dès un très jeune âge, on avait déjà des projets entrepreneuriaux, on lançait peut-être certaines organisations qui n'étaient pas autant réelles que les entreprises qu'on a maintenant, mais on avait déjà cette envie de créer-là très, très jeune. Bon, la première question que j'aimerais te poser, Antoine, à quoi ressemble ton parcours présentement académique? Est-ce que quand tu as lancé l'organisation et que tu as vu que l'entreprise commençait à avoir de l'attraction, automatiquement, tu t'es dit, je mets toutes mes énergies sur l'entreprise ou d'un autre côté, tu as continué ton parcours académique et simultanément, tu étais capable de gérer l'organisation?
Alors pour l'instant, je suis toujours aux études. Donc comment ça s'est passé avant mes 16 ans? Donc j'ai fait 4 années d'études, ça s'appelle les secondaires ici en Belgique. Et après j'ai choisi et mes parents ont décidé de me faire confiance sur ce choix. J'ai été scolarisé à domicile où ça a été vraiment le pas un game changer dans mon business mais plutôt dans ma vie qui a fait que en septembre de l'année 2018 j'étais scolarisé à domicile donc je suivais tous les cours chez moi tout seul devant mon bureau enfin devant mon écran plutôt et alors durant cette année-là ça a vraiment été très enrichissant pour moi parce que j'étais seul donc point de vue vie sociale ça a été assez spécial mais point de vue on va dire point de vue enrichissement, ça a été aussi super intéressant. Et en fait, c'est cette année-là donc où j'ai lancé My American Shop avec mon frère. Donc c'était oui, donc c'était en mai 2018. J'avais encore 16 ans. Et après, comment ça s'est passé la suite? Donc on a commencé à faire nos premières ventes, etc. On était quand même assez jeunes. Donc au final, on avait des ressources, mais on n'en avait pas tant que ça. On était quand même assez assez petit au départ, donc il a quand même fallu un certain temps avant que on voit une certaine traction sur le marché. Et là, il nous a quand même fallu presque un an avant de savoir que vraiment la vente de produits alimentaires ici en Europe avait vraiment une opportunité de marché qu'on pouvait saisir. Et à partir de ce moment-là, ben on a énormément bossé. Mon frère a quitté le projet, donc moi j'étais seul pendant tout un temps. Après, Maxime, qui est maintenant mon associé, qui est directeur des opérations chez My American Shop, m'a rejoint. Et on a vraiment fait bouleverser tout ça. On a mis un tas d'actions en place et on a pu assez rapidement, au final, passer à d'autres niveaux.
Ouais, effectivement, vous êtes maintenant un niveau de croissance qui est assez exceptionnel, puis on va en discuter dans quelques minutes de ça. J'aimerais revenir un petit peu à ton parcours académique. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Donc, très, très souvent, on voit des entrepreneurs qui ont des fois des commentaires, on va dire ça comme ça, spécifiques par rapport au volet scolaire, en disant que c'est pas nécessaire d'avoir un certain baccalauréat pour bâtir des organisations. Je fais partie de ces gens-là. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'apprendre en dehors du cursus scolaire. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Donc, toi, tu es toujours à l'école présentement. Est-ce que tu sens que de t'enrichir sur les bancs d'école t'aide à être un meilleur entrepreneur au jour le jour?
Alors, grosse question. Donc là-dessus, après, donc en septembre 2018, donc je me suis inscrit à l'université parce que j'avais donc réussi mon diplôme. Donc je me suis inscrit à l'université parce que je voulais étudier l'économie et la gestion. Je voulais être ingénieur commercial de base. Et donc voilà, moi, c'était même pas une question pour moi. Je ne voyais que par les études. Je voulais vraiment avoir une carrière brillante dans une grosse boîte de conseil. Donc il fallait que je passe par cette case-là. C'est vrai que pendant tout ce temps, ça m'a quand même assez enrichi, ça m'a permis de développer surtout un esprit critique. Maintenant, de là à dire que ça a eu un impact sur mon business, pas du tout. Pourtant, j'apprends de l'économie et de la gestion, mais j'ai pour moi beaucoup plus appris pendant ces presque 3 ans que j'ai appris à l'université. Ça, c'est certain. Maintenant, je veux pas non plus critiquer l'université, mais pour moi, du moins, ça n'a pas eu un grand impact dans mon business. Moi, j'ai vraiment décidé de continuer ça parce que ben, ça fait toujours bien de parler à des investisseurs et d'avoir un bon diplôme. Ça, c'est toujours chouette d'avoir un esprit critique, de savoir un petit peu parler économie, gestion. Et puis bon, ça m'aide dans quelques aspects de la boîte. Mais en tout cas, c'est sûr que ça n'a pas du tout été un game changer pour nous.
Intéressant. Bon, tu as choisi une industrie dans laquelle les liquidités sont excessivement importantes. Donc, un petit peu de contexte pour l'audience aujourd'hui. Antoine vend des produits qui sont des États-Unis littéralement, donc certains produits qu'on ne retrouve pas en Europe. Et ben, pour les vendre, il doit les acheter. Hein. Donc, si, disons, il était dans une entreprise de prestation de services où il vendait son temps ou le temps des autres ou une certaine expertise, ben, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir des investissements initiaux importants. Dans un cas comme le tien, il y a une très, très grande distinction à ça. Et quand tu as besoin de certaines liquidités et que tu es jeune, ben, des fois, les banquiers sont pas tellement ouverts à te prêter de l'argent et tu dois être créatif dans ta manière d'aller trouver ce capital-là. Question pour toi maintenant, après avoir donné un petit peu de contexte à l'audience, comment tu t'y es pris? Comment tu t'y es pris pour faire tes premières commandes? Comment tu t'y prends aujourd'hui pour faire tes nouvelles commandes? Est-ce que tu as été capable de bâtir des meilleures relations avec les banquiers à travers le temps? Est-ce que d'un autre côté, tu as été capable de trouver de l'argent autour de toi, peut-être de proches, peut-être d'investisseurs externes qui t'ont permis de faire ces premiers achats-là? Quelle est la dynamique chez American Shop présentement au niveau des liquidités, au niveau du capital que vous avez besoin?
Alors donc, au tout début, on s'est financé avec donc de l'argent qu'on avait économisé avec mon frère. Donc c'est ce qui nous a permis d'acheter nos premières palettes de produits alimentaires, donc encore chez des importateurs européens. Donc là, bon, la demande en trésorerie, enfin le besoin plutôt en trésorerie n'était pas énorme. Par contre, ça c'est sûr qu'en étant jeune, voilà, moi je me suis jamais permis d'aller voir une banque quand j'avais 17 ans. Je me suis dit que ça allait être peine perdue, ça c'était déjà sûr d'avance. Quand je vois les galères parfois qu'on peut avoir pour d'autres types d'investissements plus sûrs à des âges plus mûrs. Donc voilà, au fil du temps, quand on a pu se développer, on a créé donc une forme juridique en personne morale. Donc on n'était plus en personne physique au nom de mon papa. Et donc on a commencé à encaisser de l'argent sur une personne morale, donc sur une vraie entité où j'étais administrateur délégué, où on a société administrateur, où ma maman est toujours administratrice, mais c'est quand même une forme beaucoup plus sérieuse. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à bâtir une relation avec plusieurs banquiers, avec plusieurs personnes qui sont dans le monde de la finance et plutôt dans le monde des investissements. Et voilà. Maintenant, je vais pas te mentir, je vais pas mentir à toute l'audience qui nous écoute, c'est quand même assez compliqué. Malgré le fait qu'on fait 1 million d'euros, à la limite, ça fait plus peur aux banquiers qu'on fasse du chiffre aussi vite, parce que on est repris forcément comme une start-up, et qui dit start-up dit parfois pas de rentabilité, et donc c'est vrai qu'il faut du temps, et compter sur des investisseurs de type public ou même privé et banquier, c'est pas le top. Donc nous on a essayé d'élargir un petit peu ça en essayant d'aller chercher de la love money, comme à mon avis beaucoup de sociétés doivent faire à leur début, et c'est comme ça qu'on arrive à se financer. Donc My American Shop a toujours été rentable dès le début. On a pu mettre en place plusieurs systèmes de growth qui nous ont permis d'être directement rentables, et donc on n'a jamais eu ce besoin en levée de fonds par exemple qu'ont d'autres entreprises dans la tech. Donc voilà, ça a été vraiment une chance, et on a vraiment regardé depuis le début à toutes nos dépenses. On a essayé d'être les plus minutieux possible là-dedans pour pouvoir grandir sainement avec de la rentabilité, pour ne pas devoir dans un an aller lever 1 million d'euros parce que justement on a cramé tout le cash, quoi.
Donc tu as une vision de croissance certes, mais pas une croissance au détriment de la profitabilité, de ce que je comprends. Donc, tu n'es pas prêt à dire demain matin, on va, pardonnez-moi l'anglicisme, burner de l'argent mensuellement, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros simplement pour aller chercher un chiffre d'affaires plus élevé.
Exactement. Donc ici, on a quand même de grosses dépenses parce qu'au final, j'ai dit qu'on était rentable, mais on n'est pas non plus super profitable parce que forcément, on est une jeune entreprise, donc on lève pas de fonds. Mais ça veut pas dire que on fait 20 ou 30% de rentabilité, comme je l'espère, on pourra le faire dans 10 ans. Mais c'est sûr que il faut vraiment distinguer croissance et rentabilité. Donc là, pour l'instant, on essaie de trouver le juste milieu. Mm-hmm. Et je pense qu'on arrive à grandir au final plutôt bien sans devoir absolument aller toucher à la rentabilité et devoir lever des fonds. Donc je pense que là, on a réussi à faire le premier million en 2020, et on arrivera à faire, j'espère, le triple ou le quadruple en 2021 sans devoir aller lever des fonds. Ouais.
Félicitations d'ailleurs, c'est assez exceptionnel d'atteindre ce type de niveau. Parce qu'il faut le dire, hein, vous n'êtes pas une entreprise de dropshipping. Vous avez des entrepôts en Belgique, vous avez une équipe, vous vendez vos propres produits. Donc, à un certain point, c'est important de le dire à l'audience. Aujourd'hui, là, vous bâtissez une réelle organisation en ce moment qui a le vent dans les voiles. Ceci étant dit, maintenant, je te poserai des petites questions sur, bon, forcément, on va parler de l'âge. Hein? Donc, tu as 19 ans aujourd'hui, tu as fondé l'entreprise à 16 ans. Je te l'ai dit un peu avant le début du podcast. C'était la même chose, moi, de mon côté également. Donc, quand j'ai lancé mon organisation J7 Media, qui s'appelait Jour 7 Communication au départ, j'avais 18 ans. Et une chose que je me suis toujours rendu compte, c'était que même si tu es sérieux, même si tu as une bonne offre de service, même si tu as un argumentaire qui est développé, que tu as des bonnes idées, tu restes un jeune de 18 ans qui s'en va voir des clients, qui s'en va voir des partenaires, qui s'en va voir des collaborateurs. Et forcément, la crédibilité, des fois, est peut-être un petit peu plus difficile à aller chercher. Par la suite, bon, faut trouver des manières créatives de toujours avoir l'air très sérieux et de savoir de quoi on fait. Mais tout de même, c'est un point à mentionner. Comment que ça s'est passé de ton côté? Et comment que ça se passe aujourd'hui? Parce que t'es pas vieux, hein? T'as encore seulement 19 ans et t'accomplis des très belles choses avec ton associé Maxime, d'ailleurs, qu'on salue. Comment ça se déroule de ton côté, cette croissance-là, malgré un si jeune âge?
Alors, c'est vrai que le fait de souligner qu'on n'est pas une entreprise de dropshipping, c'est vrai que c'est intéressant de le souligner, parce que au-delà de ça, oui, on a des entrepôts, on est basé en Belgique, donc dans la province de Namur, et on a des entrepôts, enfin un entrepôt maintenant qui fait plus de 1000 mètres carrés, on a des personnes qui travaillent dedans, on a des ouvriers, on a des étudiants, on a vraiment une team à gérer, on a 200 mètres carrés de bureaux, donc vraiment toute l'équipe est sur place, et ça c'est vrai que c'est super important, on est vraiment en train de bâtir quelque chose sur de bonnes bases, sur des bases saines, et bon, c'est vrai qu'on n'a rien à voir avec le dropshipping, on expédie nos colis nous-mêmes, on a même décidé du coup d'internaliser tout ce qui est préparation de commandes, stockage, etc. pour maximiser l'expérience client et maîtriser le process de A à Z. Et donc, c'est vrai que c'était un choix. Maintenant, point de vue organisationnel, c'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte au jour le jour dans notre organisation. Mais voilà, ceci étant dit, c'est vrai que au-delà du fait qu'on parlait tout à l'heure des banquiers, des investisseurs qui, de par notre jeune âge, pouvaient poser parfois plus de questions ou étaient plus sceptiques concernant les fournisseurs, en voyant ce qu'on a déjà réussi à faire à notre âge pour l'instant, je dis qu'on a réussi à faire, c'est avec des grosses pincettes, parce qu'au final, comme j'avais dit tout à l'heure, on a fait que 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est déjà un bon début, mais c'est vraiment pas une finalité en soi. Mais justement, ces fournisseurs-là ont une certaine confiance avec nous, parce qu'on leur a déjà démontré en quelque sorte que on a réussi à prendre un petit pourcentage de ce marché dans l'alimentation en Europe, un tout petit pourcentage, mais il est quand même là, à notre âge. Et donc, je pense que ça, bah, ça les fait quand même croire en nous. Et donc, au final, dans ce marché qui est très vieux, qui n'est pas moderne du tout, ça reste des produits d'alimentation. Il y a beaucoup de sociétés qui font pas spécialement, certaines font énormément de chiffres, d'autres pas du tout. Et donc, avoir réussi à faire ce 1 million d'euros-là, ben, ça a déjà permis d'avoir une relation avec ces fournisseurs-là et une voie, on va dire, de développement pour eux sur le territoire européen assez importante.
Mais avant ce 1 million d'euros-là, comment que c'était? Parce que là, c'est vrai, tu as des arguments. Là, présentement, tu es capable de sortir tes chiffres, tes états financiers, puis de dire, on est un joueur sérieux, voici nos conditions, on veut travailler avec vous, mais regardez, on n'est pas un nouveau. Là, on commence à faire nos preuves dans notre marché. Mais bon, la réalité était quand même tout autre il y a 18 mois. Donc, à ce moment-là, quelle est la dynamique, ou du moins, quelle est la comparaison que tu pourrais faire entre la dynamique du début puis la dynamique du 16 février 2021? On va dire ça comme ça.
C'est assez compliqué comme question, mais oui, quelle était la dynamique avant? La dynamique avant, c'était c'est sûr qu'on pouvait beaucoup moins imposer les règles du jeu qu'on voulait, mais je rassure tout le monde, on ne peut toujours pas imposer les règles du jeu qu'on veut. On s'adresse quand même à des sociétés qui sont très 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 grosses aux États-Unis, et donc forcément, ils ont toujours quand même beaucoup plus de pouvoir que nous en fin de compte, et on s'aide plutôt d'elles que elles se servent de nous. Donc au final, bon, le rapport de force n'a pas tant changé que ça. Et je pense qu'il changera dans 3-4 ans, quand on fera 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, c'est sûr qu'on aura vraiment un game changer, qu'on aura des bureaux aux États-Unis, par exemple, on aura plusieurs succursales. Là, il y aura vraiment quelque chose qui changera dans notre relation. Mais là, pour l'instant, ça reste quand même à peu près similaire.
Intéressant. Bon, tu le dis. Vous vendez des produits qui viennent des États-Unis. Donc, automatiquement, et Important de le rementionner à l'audience, vous êtes situé en Belgique présentement, comme tu le dis. Maintenant, tu vends des produits américains en Europe, automatiquement, tu as besoin de bâtir un réseau de distributeurs outre-mer. Moi, j'aimerais ça que tu me dises comment que ça s'est créé tout ça, quelles ont été les manières, quelles ont été les étapes que tu as suivies pour bâtir ce réseau de distribution-là, ce réseau de collaborateurs-là aux États-Unis qui, aujourd'hui, sont capables de t'envoyer, semaine après semaine, leurs différents produits que toi, par la suite, tu es capable de vendre à ton audience.
Alors ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Ça déjà, c'est sûr, ça prend énormément de temps, ça prend énormément de moyens financiers. Et donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain parce que pour commander aux États-Unis, forcément, il faut commencer à avoir un gros volume et aussi d'avoir de gros moyens financiers. Donc, bon, le tout était d'avoir les deux. Donc, au final, bon, là, on est en février 2021, on a enfin pu commencer à importer nous-mêmes nos produits. Mais avant, on ne le faisait pas du tout. Donc, ça s'est fait vraiment petit à petit parce que, bon, pour que tout le monde sache, un conteneur des États-Unis à un 40 pieds, ça fait approximativement 22 palettes. Je vous dirai pas le prix de la palette ici, je peux pas le dire, mais ça fait quand même un certain budget à pouvoir décaisser. Et le processus d'importation des États-Unis prend plus ou moins 2 mois à partir du moment où on passe la commande. Avant de passer la commande, il y a tout ce travail préalable. Vu qu'on commence à rentrer dans des sommes importantes, des volumes importants, il y a beaucoup de calculs à faire, de profitabilité, de prévisionnel des ventes, etc. Et donc, ça demande énormément de temps. C'est pour ça que d'ailleurs, tout le monde ne le fait pas, parce que il y a ce volume à avoir, il y a cette trésorerie à avoir et il y a ce temps à avoir. Donc, c'est comme ça que ça s'est bâti au fur et à mesure, quoi.
Puis là, en date d'aujourd'hui, est-ce que vous avez une personne contact aux États-Unis qui vous aide à gérer toute cette importation-là ou c'est plusieurs personnes distinctes?
Alors non, c'est nous qui gérons tout en fait. Donc pour l'instant, on n'a pas de personnel aux États-Unis, on n'a pas de bureau aux États-Unis qui coordonne ça. À terme, ce sera quelque chose qu'on aura, d'avoir une succursale aux États-Unis qui va gérer toute notre supply chain de distribution et d'import-export. Mais pour l'instant, on gère tout de la Belgique où on a des collaborateurs ici qui nous aident à faire tout ça d'ici, quoi. Et donc, on communique avec justement ces sociétés-là de la Belgique.
Intéressant. Mais ça doit demander à un certain point, énormément d'agilité, là, parce que... Puis parle-nous un peu de ça. C'est quoi ton rôle, toi, dans l'organisation? On l'a dit un petit peu plus tôt, tu as un associé, Maxime, qui travaille avec toi, qui est en charge des opérations que tu nous as dit. Mais toi, spécifiquement, qu'est-ce que tu fais au jour le jour? Est-ce que beaucoup de ton temps est relié à tes communications avec tes collaborateurs? Est-ce que ton temps est davantage relié à la gestion de ton équipe, au marketing? Parce que, bien entendu, tu as besoin de marketer tes différents produits si tu veux les vendre sur ton site Internet. Où est-ce que ton temps est investi? Parce que j'imagine que ça doit demander énormément d'agilité, là, de dealer avec ces fournisseurs-là, de dealer avec un entrepôt également. Parle-nous un peu de ça.
Alors là, c'est certain que c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses au début, parce que par exemple, le fait d'avoir du personnel, c'est quelque chose où j'avais jamais eu d'expérience. J'avais eu quelques jobs d'étudiant, donc j'avais eu l'habitude de me faire manager. Mon père est cadre dans la grande distribution, donc au final, j'en entends un petit peu parler tous les jours et il sait nous donner de super bons conseils dans le management d'équipe. Mais il est vrai que du coup, je passe beaucoup de temps de mes journées avec Maxime. J'ai la chance d'avoir Maxime à mes côtés qui est rentré dans la société il y a maintenant près d'un an, et demi. Et donc, oui, au final, il y a beaucoup d'opérationnels à gérer. Donc, que ce soit déjà la gestion des équipes, au final, on se retrouve à plus être des managers qu'autre chose. Et alors, moi, mon poste au sein de American Shop, c'est encore un petit peu flou à ce stade, parce que je pense que tant qu'on n'a pas une société qui doit faire 20 à 30 personnes, au final, quand on est... l'administrateur délégué, le CEO de la boîte, au final, on touche toujours un petit peu à tout. Et au fur et à mesure du temps et de la croissance, on est en train de structurer un petit peu tous les départements de la boîte. Donc ça, ça se passe dans toutes les sociétés. Mais pour l'instant, voilà, Maxime s'occupe vraiment plus des opérations, etc., des achats fournisseurs. Et moi, je m'occupe beaucoup de management, des finances, de l'administration et des contacts aussi aux États-Unis. Donc voilà, on se répartit un petit peu les rôles comme ça, mais au fur et à mesure où on avance et où on grandit, on essaie de structurer ça au mieux pour avoir quelque chose de vraiment productif. Voilà.
Qu'est-ce que tes amis disent de tout ça? Donc là, clairement, eux, ils doivent avoir une vie qui est un petit peu différente. Ils ont 19 ans, ils ont 20 ans. Donc, toi, clairement, tu peux avoir également des habitudes et des activités comme eux, mais forcément, tu as des responsabilités qui t'amènent à avoir une gestion de ton temps qui est différente. Tu dois avoir beaucoup plus de discipline dans ce que tu fais si tu veux continuer à avoir le succès que tu as en ce moment. Comment que ça se passe un petit peu tes relations avec tes amis? Est-ce qu'ils trouvent que c'est quasiment incroyable ce que tu fais, que c'est impossible à faire, ou peut-être même que ça peut les inspirer également à eux se lancer en affaires?
Oui, bah au final, c'est vrai que nos relations avec nos amis n'ont pas trop changé, parce que au final, on essaye de pas trop parler de My American Shop tout le temps, parce que nous, on bosse beaucoup en ce moment. On essaye de déléguer le plus possible, mais c'est vrai que bon, quand on a une société en forte croissance, bah, au final, on se retrouve à travailler énormément et avoir un emploi du temps qui doit être au taquet et optimisé à 100% pour suivre les études, suivre tes équipes, s'assurer que tout va bien de ce côté-là. S'assurer que point de vue administration et finances tout suit. Bon, il faut faire suivre des dossiers super importants. Donc il y a tout ça à gérer, il y a toute cette organisation à mettre en place. Et donc c'est vrai qu'on parle pas forcément tout le temps de ça avec nos amis, mais quand on en parle, c'est sûr qu'ils sont assez impressionnés. Ce qui est le plus impressionnant, je trouve, c'est quand on se rend dans notre entrepôt. Bon, ça fait 1000 mètres carrés, on a 200 mètres carrés de bureaux. Et bon, pour nous, ça nous paraît, quand on voit à court, moyen terme, ça nous paraît encore petit pour plus tard et dans nos plans. Mais pour eux, c'est vrai que voir, je sais pas moi, on a des dizaines et des dizaines de palettes, c'est vrai que c'est un petit fact impressionnant pour eux. Et j'ose espérer que ça va leur inspirer de bonnes choses d'un point de vue entrepreneuriat. Parce que moi, je m'épanouille tellement là-dedans avec Maxime que j'espère que ça pourra en inspirer d'autres. Et je pense que, bon, on en a inspiré, mais voilà.
Intéressant. Je finirai, Antoine, sur des petites questions personnelles que j'aime poser aux invités qui viennent sur Hypercroissance. Bon, tu le dis, c'est pas à l'école que tu t'es fait la plus grande éducation au niveau entrepreneurial. Tu as appris d'autres choses qui sont très intéressantes et importantes à savoir, mais peut-être le volet business management, c'est pas là que tu l'as appris davantage. Donc, automatiquement, tu dois faire ton éducation ailleurs. Comment se fait cette éducation-là? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce qu'il y a des livres d'affaires que tu lis? Est-ce que tu as des mentors? Est-ce que tu écoutes des podcasts d'affaires qui t'aident un petit peu à devenir un meilleur entrepreneur?
Alors moi, les gens me définissent assez comme quelqu'un d'autodidacte. Voilà, quand j'ai pris le choix, alors que j'avais pas de projet, mais d'arrêter l'école, ben pour ça, ça a été pour beaucoup un gros choc de savoir que j'allais passer une année d'études, mais que je devais en réalité en apprendre deux pour avoir mon diplôme. C'était un gros choc pour tout le monde. Au final, c'était un gros défi. Pas beaucoup de monde y croyait, mais j'ai quand même au final réussi. Et donc, j'ai quand même été quelqu'un d'autodidacte, je pense, et que toutes les ressources qu'on a en ligne maintenant, contrairement à il y a 20 ans, quelle mine d'or, quoi. Par exemple, quand on regarde déjà les dizaines d'épisodes de podcasts que tu tournes avec des gens talentueux qui ont fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont des success stories des plus impressionnantes les unes des autres. Oui, il y a vraiment plein de ressources. Moi, j'aime bien lire et m'inspirer. Surtout des success stories américaines. On est dans les produits d'importation américains, donc on deal avec les États-Unis. Moi, j'ai toujours été fan des US. Donc, je sais pas, il y a une autre mentalité qu'ils ont là-bas, qu'on n'a pas ici et qu'on aura pour moi jamais ou bien dans très longtemps. Et c'est ça qui me passionne vraiment avec ce pays-là. Évidemment, il y a plein d'aspects négatifs qu'on ne va pas parler ici, parce que c'est pas le lieu ni le sujet. Mais ouais, lire des livres, écouter des podcasts. Et surtout écouter des choses qui nous plaisent et qui nous inspirent. Quand on regarde le nombre de vidéos et de ressources qu'il y a en ligne, comme des podcasts, ou alors quand on regarde la série de The Family, ils ont fait des podcasts sur YouTube d'Oussama Amar, je sais pas si vous le connaissez,
oui.
Au Canada, voilà, mais qui parle de tout plein de sujets. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est inspirant, quoi. Il faudrait que tout le monde aille écouter ça et trop peu de personnes osent se lancer par plein de craintes. Mais, ouais.
Effectivement. Puis les livres, qu'est-ce qui a marqué un petit peu peut-être ton imaginaire dans la dernière année?
Alors, des livres. Moi, j'ai lu la biographie de Warren Buffett, qui au final n'est pas trop entrepreneur, mais bon, qui est plutôt investisseur. Mais bon, j'adore le monde de l'investissement, de l'immobilier, etc. Donc ça, c'était vraiment un livre qui m'a passionné. Je lis beaucoup de livres de Tim Ferriss. J'en ai lu quand même quelques-uns. Je ne reviens plus sur les titres comme ça en tête, mais il y a pas mal de livres des États-Unis qui ont été traduits en français ou même qui sont en anglais et qui sont super intéressants.
Routine. À quoi que ça ressemble la routine de travail d'Antoine Libois quand il se lève le matin?
Alors, la routine d'Antoine Libois, c'est-à-dire que pour l'instant, avec Maxime, on n'a pas de bureau. parce que nos bureaux sont en construction, donc on a emménagé dans un tout nouvel entrepôt, donc les bureaux n'étaient même pas encore finis, qu'on a dû aller s'installer dedans pour pouvoir délivrer nos commandes et faire face à la croissance qu'on a ici ces derniers mois. Donc ici, nos bureaux normalement seront finis dans les prochains mois. Donc pour l'instant, on fait encore tout à domicile. On a eu quand même une chance énorme avec ce confinement, c'est parce que avec Maxime, on a pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent ensemble. Et ça, c'est vrai que ça a été un gros game changer aussi. Je l'ai répété au moins 4 fois dans le podcast, mais on va dire que c'est bon, y a plusieurs étapes comme ça qui ont changé beaucoup de choses dans notre organisation. Et au final, voilà, donc c'est vrai que le confinement, on a pu être vraiment focus là-dessus, alors qu'avant, on avait beaucoup plus de distractions qu'on n'a plus maintenant et qu'on a rayé notre emploi du temps. Donc ça, c'était super intéressant. Puis là, donc, on est en train toujours de travailler depuis la maison. Donc on a vraiment hâte d'être au mois d'avril pour que toutes nos équipes puissent être de nos tout nouveaux bureaux et qu'on puisse encore délivrer plus et mieux, surtout.
Bon, merveilleux. Puis garde pour les gens qui veulent en apprendre un petit peu plus, allez sur le site web My American Shop. Comment qu'on l'appelle un petit peu là, pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient peut-être en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites?
Voilà. Alors, My American Shop, c'est MY. American, c'est AMERICAN, shop, SHOP. Et alors, c'est .be. On switch bientôt vers le .com. Donc, ça dépend à quel moment les auditeurs écouteront ce podcast. Mais vaut mieux aller sur le .com. On est en train de faire une refonte totale de notre site pour encore améliorer l'expérience client dessus et pouvoir viser d'autres pays. Donc, voilà.
Bon, ben merveilleux. Ben Antoine Libois, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est exceptionnel d'avoir cette vitesse de croissance à un si jeune âge, très inspirant. Et ben pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que l'histoire à succès de Antoine Libois pourra vous donner envie de vous lancer également en affaires, et ce, même si vous n'avez pas encore 20 ans. Antoine est l'exemple typique que l'âge ne doit pas être un frein à nos ambitions et que si on est capable d'être bien discipliné dans ce que l'on fait, on risque d'être capable d'atteindre nos objectifs. Également, on a lancé nos nouveaux médias sociaux pour hypercroissance en créant des pages totalement séparées à J7 Media. On vous invite à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos podcasts depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.